des résultats en cette matière-là. Et gardons aussi en tête que pour ce qui est de la question du remboursement des dépenses liées à l'accueil des demandeurs d'asile, ça, ce problème-là demeure entier. Ça fait encore l'objet de discussions entre les deux ministères de premier ministre, c'est-à-dire le conseil exécutif et le conseil privé. Mais on me dit qu'on est confiant d'en arriver à des résultats. Mais vraiment, je veux souligner le travail de Christine Fréchette qui, je trouve, manœuvre très, très bien dans un dossier fort complexe.
Autre volet au psychodrame chez Québec solidaire, une lettre ouverte publiée ce matin en appui à Gabriel Nadeau-Dubois pour faire le contrepoids au mouvement lancé par Catherine Dorion.
Oui, c'est un début de semaine un peu plus doux pour Gabriel Nadeau-Dubois, avec là une lettre ouverte qui va en son sens, 80 personnes, donc tu le disais, organisateurs, militants, des militants influents. Je note dans les co-signataires Gaétan Châteauneuf, jadis considéré comme le véritable chef de QS et de son politburo,
oui,
qui était secrétaire général dans les faits. C'est intéressant de lire la lettre. Je te dirais qu'on est dans le ménagement de la chèvre et du chou. C'est-à-dire que face à la fronde de Catherine Dorion et de ses sbires, eux, ils choisissent d'essayer d'unir. Ils sont pas dans une logique de dire c'est vous ou c'est nous. Ils essaient de défendre l'idée que oui, oui, c'est possible de garder la couleur Québec solidaire puis le côté revendicateur et tout ça, mais en étant un peu plus pragmatique. Écoute, je suis loin d'être certain que c'est possible. Encore là, on va continuer à voir comment le discours, comment le débat évolue jusqu'à la fin mai, jusqu'à la rencontre à Jonquière. Mais chose certaine, dans cette lettre-là, ils réussissent à éloigner de la discussion le sujet du leadership et du contrôle de Gabriel Nadeau-Dubois et de son entourage.
Merci, monsieur.
Salut.
98.5 mots. C'est fixe. FM 93. Une radio de champions dans une ville de champions.
Réveil Rimouski à CFM 93. Primeur, nouvelle régionale, réseaux sociaux, sport local, opinions et commentaires. Rimouski et l'Est du Québec. Réveil Rimouski et votre émission d'information du matin.
Oui, donc effectivement, tout un dossier, là, le dossier du transport en commun. On va aller rejoindre donc tantôt, là, même immédiatement, Alexandre Dastou pour la chronique Tour d'Horizon. Tour d'Horizon, c'est cette fameuse chronique là, qui s'intéresse à tout ce qui se passe d'ailleurs dans les villes, dans les municipalités là, autour de Rimouski. Donc Alex qui va être des nôtres bientôt. On était au téléphone il y a de ça là, quelques minutes, et puis on n'a pas eu le temps de rejoindre Alex, mais là, il est là. Alex, bonjour.
Oui, bonjour Michel.
Voilà, donc excuse le retard, donc j'étais au téléphone avec un auditeur, j'ai pas vu le temps passer. Donc Alex, chronique intéressante, s'il en est une encore ce matin, et donc Desjardins, là, les fermetures de caisses, l'opposition s'intensifie un peu partout, on parlait de Saint-Fabien, puis là il y a d'autres municipalités qui embarquent, Saint-Gabriel et d'autres.
Oui, exactement, alors on en a parlé depuis quelques semaines, mais j'ai appris qu'il va notamment y avoir à Saint-Gabriel la semaine prochaine, je crois que ça va être lundi, une mobilisation, une manifestation. Alors, probablement que ça va être annoncé là aujourd'hui ou dans les prochains jours, selon les informations que j'ai eues. Donc, ça, on est loin de lâcher le morceau là chez les municipalités rurales qui sont touchées par les fermetures de services ou la diminution de services chez Desjardins. Dans le cas de Saint-Gabriel, on parle d'une fermeture. Il y a également Saint-Luce. Les deux municipalités ont lancé sur la fin de la semaine dernière, Michel. Ça n'a pas été annoncé grand public jusqu'à maintenant, mais ça va sûrement l'être. On a lancé des pétitions un peu comme sur le modèle de Saint-Fabien. Donc, on se disait ensemble la semaine passée, Michel, que la décision de Desjardins était irréversible, ouais. Sauf que plus le mouvement citoyen prend de l'ampleur, plus je pense que on n'aura pas le choix d'en tenir compte là au niveau des instances de Desjardins, parce que finalement ce sont des membres là qui sont en train de se soulever et une coopérative c'est géré par ses membres, donc je comprends que on aura peut-être l'obligation et le devoir de repenser ou de reporter ou de réévaluer ou de parce que pour avoir discuté avec autant des gens de Saint-Fabien que des gens de Saint-Gabriel, que des gens de Saint-Luce, que des gens dans les Basques, Saint-Mathieu, je le rappelle, Saint-Clément et Saint-Éloi vont aussi perdre leur comptoir. Ce qu'on me répète un peu partout, c'est que on est conscient de la situation économique actuelle, on est conscient qu'il y a de moins en moins d'utilisateurs pour les comptoirs, surtout, mais également pour les guichets automatiques, mais que c'est une grave et lourde perte de service et qu'il y a peut-être des situations alternatives. On n'exige pas le maintien de tous les services, mais on veut du moins, de ce qu'on me dit, garder des guichets automatiques. Ça doit pas coûter ultra cher à Desjardins de mettre un guichet automatique dans un commerce. Là, oui. À Price, c'est comme ça, le guichet automatique est dans l'épicerie. Oui. Alors, je sais pas si ça peut se faire à Saint-Gabriel ou ailleurs, mais c'est peut-être des pistes de solution là que va falloir à un moment donné qu'on s'assoie puis qu'on regarde ce qu'on peut faire, je crois.
Oui, donc effectivement, mais on se satisferait de ça, on pourrait installer ça, oui. Par exemple comme dans des dépanneurs ou dans un lieu public là, mais effectivement donc là la grogne là s'intensifie.
Oui, exact. Alors attendez-vous à ce qu'on nous annonce un, comme je le disais, ce qu'on appelle un rassemblement là, de mobilisation. Je veux pas dire que ça aura l'ampleur des opérations d'unité, Michel, mais un peu ce genre de mouvement-là là, où des gens prendront la parole et où on va opposer une certaine résistance pour... Comme ça va de soi que j'en parle dans cette chronique-là, parce que la vitalité de nos municipalités rurales dépend des services qu'on peut y recevoir et la... Le service financier, ben, c'est un service important.
Oui, effectivement. On a vu des municipalités avec la population augmentée. D'ailleurs, je parlais dernièrement avec un directeur général là, d'une municipalité ici qui me disait, pas plus tard que vendredi, que la population augmente malgré tout. Mais là, les services, eux, continuent de partir. On a eu des fermetures de dépanneurs, des fermetures d'épiceries, là, des fermetures de caisses populaires. Donc, est-ce qu'on veut attirer seulement des retraités là, dans les municipalités rurales où on veut une véritable vie. Donc, et pour ça, ben, ça prend une école, puis ça prend là, des services.
La question se pose effectivement, Michel. Puis oui, les écoles, on en a parlé ensemble, notamment dans le cas d'Esprit-Saint. Oui. C'est tout, ça prend un ensemble, parce que si on veut dynamiser une municipalité rurale, ça prend des familles. Puis si on veut attirer des familles, ça prend des services que les familles ont besoin.
Effectivement. Deuxième sujet ce matin, on parle des commandos de Saint-Fabien. 50 ans déjà, moi je me souviens à l'époque de ma tendre jeunesse, ça commençait les commandos.
Ouais, puis je voulais faire un petit clin d'œil ce matin parce que, bon, oui, c'est un club de motocyclistes. Par contre, c'est un club qui a marqué l'histoire de Saint-Fabien, oui. Je te dirais, assez de manière assez importante, Michel, parce que on s'est énormément impliqué pour la jeunesse, en faisant notamment le Père Noël. Pendant plusieurs années, c'est les commandos qui organisaient la distribution de cadeaux pour les enfants de la municipalité de Saint-Fabien, mais aussi de Saint-Eugène, d'où je suis natif. Alors, je connais bien l'implication là des commandos qui sont un peu moins impliqués depuis peut-être 8-10 ans, mais c'est un club social qui a marqué l'histoire de Saint-Fabien avec son local derrière la coopérative agricole, pas loin du lac de la station. Donc, on a des figures marquantes. Je sais que Pierre et Émile ont reçu, je crois, la semaine dernière, là,
Gérald Tassilou. Ben oui.
Oui, Gérald, qui est président depuis les tout débuts du club. Alors, c'est lui qui est le grand Manitou, là, du grand débarquement. Qui va avoir lieu samedi. Ça commence en après-midi à l'intérieur de la patinoire de l'Aréna de Saint-Fabien. On pourra voir des photos d'archives, des photos historiques, parce que Dieu sait que Gérald, il y en a des photos. Je le vois sur sa page Facebook, là, il en met régulièrement. On a organisé la foire du Caplan. On a organisé chaque année la grande chevauchée mécanique, c'est-à-dire des longs voyages, des trajets en moto avec les membres du groupe. On a comme je le disais, le Père Noël. On a organisé des accélérations, des dragues de moto un peu partout, à Saint-Mathieu, à Saint-Eugène, à Saint-Fabien, à Rimouski. On a fait de la sécurité dans des grands festivals je sais plus comment il s'appelait, là, organisé par Hugues Albert à Rimouski.
Ah, oui,
les
rétro.
Commandos faisaient la sécurité.
Rétro.
Alors, je sais que oui, c'est ça. Oui. Rétro Rock.
60.
Alors, je sais que mon collègue Pierre connaît bien ces a couvert et connaît bien ces activités-là un peu plus que moi. Je suis un peu plus jeune, mais je sais que les commandos, quand on parle des commandos, je pense à des gens qui sont dans la région de Rimouski. On sait tous ce que c'est. Et je voulais leur faire un petit clin d'œil parce que c'est des gens qui se sont impliqués énormément, qui évidemment, hein, comme on le dit, le club a 50 ans, donc le groupe fort, là, le cœur a vieilli, c'est sûr.
Ben oui.
Mais ce sont des gens qui demeurent impliqués. Puis pour la petite histoire, là, Gérald est impliqué également au niveau du karaté à Saint-Fabien. Son fils Louis-Philippe s'occupe de l'école de karaté qui fonctionne très, très bien depuis longtemps. Le frère de Gérald, Sylvain, qui malheureusement a eu un grave accident en 2004 de moto, ben sa convalescence, puis Sylvain me dit souvent, moi c'est le karaté qui m'a sauvé, puis il va faire son tour à Saint-Fabien à l'école de karaté. Donc c'est comme un tissu social important et intéressant là de Saint-Fabien-Saint-Eugène qui va être célébré 50e anniversaire en fin de semaine.
Voilà. Et comme dernier sujet, Alex, ben là, est-ce que c'est un retour à la case départ pour le Mont-Commis? Parce que là, on a véritablement la preuve là que le groupe suisse qui voulait acheter la montagne, ben s'est retiré complètement.
Ouais, c'est eLiberty Group. Il avait acheté une station là dans le sud-ouest du Québec.
Oui.
Le nom m'échappe, mais on avait démontré de l'intérêt pour le Mont-Commis. J'ai parlé avec Denis Roussel là du groupe Roussel vendredi dernier et monsieur Roussel me disait que à la fin avril, eLiberty Group a confirmé qu'on n'était plus intéressé à acheter le Mont-Commis. On se tourne vers le Mont-Sainte-Anne et Stoneham, selon ce que M. Roussel me disait. Alors lui, il n'est pas du tout découragé, Michel. Je lui ai demandé. Il me dit non, là, on est en train de ramasser nos choses pour l'été. Et on a un groupe intéressé. J'ai pas eu le temps de les relancer. Ça c'est peut-être pas la priorité du moment. On oui. veut finir la saison, c'est-à-dire ramasser le stock et préparer tout ce qui doit être fait là avant de partir pour l'été. Et cet été, on s'attend de rencontrer un groupe. Il a pas voulu m'en donner plus de détails sur cet éventuel acheteur là, mais il était dans le paysage également cet hiver, sauf qu'on avait donné une espèce d'exclusivité à eLiberty Group jusqu'à la fin avril. Alors maintenant, on peut discuter du côté du groupe Roussel avec cet acheteur-là potentiel. Et si il ne se passe rien d'ici l'automne, Denis Roussel rassure là la clientèle et les skieurs de la région. Il n'est aucunement question de faire du Mont-Commis ce qui a été fait à Val-Négette, c'est-à-dire oui. qu'on va pas cesser d'opérer là. Le groupe Roussel et Denis Roussel m'a dit ça fait 26 ans qu'on opère, on peut continuer à opérer encore l'année prochaine sans problème là, si jamais on n'est pas vendu. Faudrait dans mes plans là, j'aimerais parler avec la MRC. La MRC a déjà été intéressée.
Oui.
On a reculé, c'était une question de prix fixée par le groupe Roussel. Alors peut-être que la MRC peut revenir à la charge également. Et c'est comme dans toute négociation, Michel. Et là, je suis pas en train de dire que le groupe Roussel va baisser son prix. Là, c'est pas ce que M. Roussel m'a dit. Mais au fil du temps, plus on va être pressé à vendre, ben plus on va peut-être faire des concessions.
Oui, mais ce qui retarde bien souvent là, le fait qu'un nouvel acquéreur achète, là, ben c'est que des investissements peuvent venir après. Donc là, ce n'est pas le groupe Roussel, malheureusement, qui pourrait faire ces investissements-là, mais bien le nouvel acquéreur.
Exact. Et puis bon, il y a toute la problématique que je vais aller rapidement parce que je vois que le temps file, mais il y a la problématique là, du fameux réseau d'égouts là, qui appartient au groupe Roussel pour les chalets. C'est quand même une plus d'une centaine là, d'entrées et le réseau est désuet, donc on doit investir dedans.
Oui, effectivement. Merci infiniment, Alex. Et on va se reparler jeudi pour la chronique judiciaire. Je pense qu'il y a de la cour cette semaine à Rimouski, hein?
Je te parle du stationnement du palais de justice. Je rentre dans le palais dans les prochaines minutes pour aller recueillir des infos. Oui, il y a de la cour cette semaine à Rimouski. Pas mal de dossiers, dont l'homme là qui est accusé de tentative de meurtre dans le dossier de Saint-Angèle-de-Mérici.
Oh, OK, donc ça va être intéressant, ça. C'est vrai, on n'en avait plus entendu parler, et de la femme non plus. Je crois, là, effectivement, c'est un gros dossier. On se reparle de ça jeudi, Alex.
Salut!
Voilà,
bonne journée.
Voilà donc Alexandre Dastou, chroniqueur judiciaire et chroniqueur donc Henri Mouski à 16h.